Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Participant à la zikir nationale, le président Jokowi et le vice-président Maruf Amin s'excusent. Youssouf Kalla assistera au funérailles du leader du Hamas, Ismail Haniyeh. L'Indonésie fête l'esprit de Bandung, le fondement de la coopération avec l'Afrique. KRI Bima Suci commence une mission de bonne volonté en Asie de l'Est. Le directeur du Bureau de la musique d'Ambon devient le coordinateur de la ville de musique d'UNESCO en Asie Pacifique. La France rappelle à ses citoyens de ne pas voyager au Moyen-Orient. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo et le vice-président Maruf Amin ont assisté à la zikir commune et à la prière nationale pour célébrer le 79e jour de l'indépendance indonésienne dans la cour du Palais Merdeka jeudi 1er août. À cette occasion, le président Jokowi et son nom personnel et le vice-président Maruf Amin ont exprimé leurs plus sincères excuses pour les erreurs et les lacunes dans l'exercice de leur mandat lorsqu'ils dirigeaient le pays.
Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya.
En toute sincérité et humilité, permettez-moi ainsi que Professeur Kiai Haji Maruf Amin tient à s'excuser abondamment pour toutes les erreurs et fautes, en particulier pendant que nous avons tous deux exercé notre mandat de président de la République d'Indonésie et de vice-président de la République d'Indonésie. Le président Joko Widodo a admis qu'il était très conscient qu'en tant qu'humain, il était impossible pour eux deux de plaire et de répondre aux attentes de toutes les parties. Selon lui, il n'est pas parfait, alors que la perfection n'appartient qu'à Allah, qu'il appelle tout-puissant sur toute chose. Il a également invité les participants présents à demander l'aide de Dieu pour devenir en bon pays et recevoir le pardon de Dieu Tout-Puissant. Le zikir commune et la prière nationale a réuni des milliers de personnes, dont un certain nombre de dirigeants d'entreprises islamiques, d'organisations communautaires, de chefs religieux et d'étudiants d'entreprises islamiques de divers endroits. L'ancien vice-président indonésien Yusuf Kalla s'est rendu jeudi 1er août à Doha, au Qatar, pour assister au cortège funèbre du chef du Hamas, Ismail Haniyeh. Il était accompagné du ministre de la Loi et des Droits de l'Homme pour la période 2004-2007, Hamid Awaluddin. Dans sa déclaration écrite, Yusuf Kalla a déclaré que la présence de la délégation indonésienne à la funéraille de Haniyeh était l'espoir du peuple palestinien. Des prières communes pour les funérailles d'Ismaël Haniyeh ont eu lieu jeudi matin à Téhéran, en Iran, heure locale. Le même jour, après être prié, le corps du chef du bureau politique du Hamas sera amené à Doha. Les prières funéraires pour Haniyeh auront lieu à la mosquée Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, la mosquée nationale du Qatar à Doha, après les prières du vendredi 2 août. Haniyeh serait ensuite enterré à Lusail, au Qatar. Haniyeh est mort dans une frappe aérienne qui a visé sa résidence, une maison d'hôte pour anciens combattants, dans le nord de Téhéran, mercredi 31 juillet. L'expert diplomatique économique au ministère indonésien des Affaires étrangères, Dindin Wahyudin, a déclaré qu'en Indonésie ferait de l'esprit de Bandung une base pour développer une coopération durable avec les pays africains. Cela sera réalisé à travers la mise en œuvre du deuxième forum Indonésie-Afrique, IAF, du 1er au 3 septembre à Bali. Comme l'a rapporté Antara, lors d'une conférence de presse en ligne à Jakarta, jeudi 1er août, Dindin a fait référence au thème de l'esprit de Bandung lors de la conférence Asie-Pacifique, KAA, conférence intercontinentale à Bandung, Java West, en 1955, pour promouvoir la paix mondiale et la coopération entre les pays. Le deuxième forum Indonésie-Afrique, IAF, sera assisté par 28 chefs d'État ainsi que de 800 participants représentant des gouvernements, des organisations internationales et régionales, ainsi que des entrepreneurs d'Indonésie et d'Afrique. Le forum se tiendra conjointement avec le forum du haut niveau sur les partenariats multipartites HLFMSP qui se tiendra également à Bali. Pendant ce temps, certaines des coopérations prioritaires au sein de ce forum concernent la transformation économique, l'énergie, l'exploitation minière, la sécurité alimentaire, la santé et le développement. Le bateau de la République d'Indonésie, KRI Bima Suci, entame une mission diplomatique et de bonne volonté à la voile pour les 90 prochains jours avec 189 cadets de l'Académie navale indonésienne, AAL, et des cadets de 17 pays. Comme rapporté par Antara, le navire a quitté Surabaya, Java Oriental, vers plusieurs pays d'Asie de l'Est jusqu'à la Russie. Au cours du voyage, les cadets ont participé à la formation Kartika Jalakrida et à la voile des cadets ASEAN Plus APCS 2024 avec 32 cadets de l'Académie navale de 17 pays. Par conséquent, le commandant du commandement de la flotte de la Marine nationale indonésienne, le contre-amiral TNI Arianto Condowibowo, dans son discours lors de la cérémonie de départ à Surabaya, Java East, jeudi 1er août, a appelé que la mission de bonne volonté de cette année du KRI Bima Suci était spéciale. Des cadets de 17 pays et des cadets de l'AAL ont navigué avec le KRI Bima Suci sur la route Surabaya, Jakarta et la destination finale de Singapour. Après cela, KRI Bima Suci poursuivra son voyage vers plusieurs endroits en Asie avant de retourner à Surabaya. Le directeur du Bureau de la musique d'Ambon, AMO, Ronnie Lopez, a été choisi comme coordinateur régional de la ville de musique de l'UNESCO dans la région Asie-Pacifique. L'élection a eu lieu lors de la conférence annuelle des villes créatives mondiales 2024 à Braga, au Portugal, en juillet dernier. Cité par Antara, Ronnie Lopez à Ambon, Molouk, jeudi 1er août, a déclaré que le principal soutien provenait de villes comme Norrköping en Autriche, Kansas City aux États-Unis, Daegu en Corée du Sud, Ipoh en Malaisie, Suphanburi en Thaïlande et autres. Selon Ronnie, cela renforce la conviction qu'Ambon est de plus en plus interconnecté au niveau international, car de nombreuses autres villes dans le monde font confiance à la capitale des Molouk. Plus de 130 personnes et 660 délégués venus de 250 villes créatives du monde ont participé à la conférence, dont 55 villes provenaient de villes de musique du monde. La France a averti jeudi 1er août ses citoyens de ne pas se rendre au Liban, en Israël et dans le territoire palestinien occupé en raison du risque d'escalade militaire dans la région du Moyen-Orient. Le ministre français des Affaires étrangères a également averti sur son site internet les citoyens français de ne pas se rendre au Liban, y compris à des fins touristiques ou familiales. L'armée israélienne a attaqué la partie sud de Beyrouth mardi 30 juillet, tuant le commandant en chef de Hezbollah, Fouad Souker. Quelques heures plus tard, une attaque atteignant tout le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Israël n'a ni confirmé ni démenti l'attaque qui a également tué le garde du corps du chef du bureau politique du Hamas. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission des commentaires d'aujourd'hui avec Maudry, intitulée « Assassinat de Haniyeh ralentit les efforts de paix à Gaza ». Chers auditeurs, le chef du bureau politique du groupe de lutte palestinien Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué dans une frappe aérienne à Téhéran mercredi dernier, 31 juillet. Selon la Hamas, Haniyeh était dans la capitale iranienne pour assister à l'investiture de Masoud Pezeshkian en tant que nouveau président iranien mardi 30 juillet, même si aucun résultat de l'enquête n'a été officiellement annoncé. La Hamas a accusé Israël d'être l'auteur du meurtre. Israël accusé d'avoir perpétré l'attaque qui a tué le plus haut dirigeant du Hamas, n'a encore fait aucune déclaration. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Tony Blinken a déclaré que Washington n'avait aucune connaissance ni aucune implication dans l'assassinat du chef du groupe Hamas. Le meurtre de Haniyeh a immédiatement suscité une large condamnation de la part de la communauté internationale. Le président palestinien Masoud Abbas a condamné l'assassinat Le leader du Hamas et a qualifié les actions d'Israël de lâches et dangereuses. Parallèlement, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, le meurtre de Haniyeh était un acte cruel visant à affaiblir la lutte du peuple palestinien et sa noble résistance dans la bande de Gaza. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a déclaré que cet incident constituait un assassinat politique totalement inacceptable et qu'il conduirait à une nouvelle escalade des tensions. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a également qualifié l'assassinat de Haniyeh d'escalade dangereuse du conflit à Gaza et de violation flagrante du droit international et humanitaire qui sape les efforts de paix. Le gouvernement chinois a également condamné le meurtre d'Ismaël Haniyeh. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Qian, a déclaré lors d'une conférence de presse à Pékin mercredi dernier que Pékin était profondément préoccupé par l'incident et qu'il s'opposait fermement à ce meurtre et le condamnait. Il a également souligné que la Chine propose toujours de résoudre les différends régionaux par la négociation et le dialogue. Gaza doit également parvenir à un cessez-le-feu complet et permanent dès que possible pour éviter une nouvelle escalade du conflit et de la confrontation. Depuis l'Indonésie, le ministère des Affaires étrangères a également fermement condamné le meurtre d'Ismaël Haniyeh. Via les réseaux sociaux, Ismaël Haniyeh joue un rôle important dans les efforts de négociation en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et c'est le fer de lance de la diplomatie internationale du Hamas. Il est à craindre que la mort de Haniyeh entrave la paix à Gaza. En outre, un autre responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a déclaré que l'assassinat d'Ismaël Haniyeh n'apaiserait pas leur résistance. Espérons que cet assassinat très regrettable de Haniyeh ne nuise pas aux efforts de paix à Gaza qui ont été initiés par divers partis. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 2 août 1934. Adolf Hitler est devenu chef de l'État allemand. Adolf Hitler était le chef du Parti National Socialiste Allemand, ou Nazi, devenu chancelier d'Allemagne après avoir remporté les élections générales de 1933. Le 2 août 1934, le président allemand à l'époque, Paul von Hindenburg, est décédé. Au lieu de chercher un nouveau président, Hitler a combiné les fonctions de président et de chancelier pour former le Führer, ou leader. Le poste de Führer a ensuite été aboli après la défaite de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Le 2 août 1990, les troupes irakiennes dirigées par Saddam Hussein envahissent le Koweït. L'invasion de l'Irak a conduit au déclenchement de la Deuxième Guerre du Golfe. Cette invasion a suscité une vive réaction de la communauté internationale. L'ONU impose des sanctions économiques à l'Irak. Les tensions entre l'Irak et le Koweït ont conduit à l'intervention militaire de la coalition internationale dirigé par les États-Unis dans le cadre de l'opération Tempête du désert en 1991. La coalition a finalement réussi à expulser les troupes irakiennes du Koweït. Le 2 août 1999, l'accident de train à la gare de Gesal Landi. Deux trains de voyageurs indiens, l'Avat Assam Express et le Brahmaputra Mail, sont entrés en collision à la gare de Gesal au Bengale occidental le 2 août 1991 au matin. Les deux trains circulant dans des directions opposées transportaient environ 2500 personnes. En raison d'une erreur de signalisation, tous deux roulaient à grande vitesse sur la même voie alors que trois des quatre voies ferrées existant étaient fermés pour maintenance. Au moins 285 personnes sont mortes et 300 autres ont été blessées à la suite de cet accident. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa. Yeah.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie, dont le titre est « Le gouvernement indonésien encourage trois industries à profiter de la tendance des modes de vie sains ». Le ministre indonésien de l'industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, encourage trois sous-secteurs industriels, à savoir l'habillement, les chaussures et les équipements sportifs, à profiter de la tendance en faveur d'un mode de vie sain qui continue de croître. Cité par Antara, mercredi 31 juillet, le ministre Agus Gumiwang a estimé que l'intérêt pour un mode de vie sain ne diminuera jamais. Cela signifie que le marché continuera de croître. Le ministre Agus Gumiwang a également expliqué pour que le sous-secteur de l'industrie des vêtements de sport, actuellement il existe de nombreux produits de marque locale présentant des caractéristiques exceptionnelles telles que l'élasticité, la légèreté, le confort, l'absorption de la transpiration, le séchage rapide ainsi que des couleurs et des modèles variés. Cependant, selon le ministre Agus Gumiwang, le marché indonésien est toujours dominé par les marques étrangères et la qualité n'est pas très différente de celle du marché local. Par conséquent, il a encouragé une collaboration plus intensive entre le gouvernement et les acteurs de l'industrie ainsi que les influenceurs pour promouvoir les marques locales dans le pays et à l'étranger. Cela s'applique également au sous-secteur des chaussures de sport qui connaît un développement rapide en raison du mode de vie de plus en plus sain en Indonésie. Ils ont noté que les chaussures de sport sont un produit non pétrolier et gazier qui contribue grandement aux exportations nationales avec une valeur de transaction en janvier-mai 2024 atteignant 1,86 billion de dollars américains. Pendant ce temps, pour l'industrie des équipements sportifs, l'opportunité d'amélioration peut encore être réalisée grâce à la production et à l'exportation d'équipements sportifs tels que le badminton, le football, le volleyball, le ballon de tennis et d'autres équipements pour les compétitions locales comme la Semaine nationale du sport, la Ligue indonésienne de basketball, IBL, et Pro Liga, ainsi que les compétitions internationales comme la Coupe du monde de la FIFA. C'est Jeditar, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kedua mata indahmu saat bibirku mengecup manis pipi merahmu dengan lugunya engkau bertanya mengapa diriku mencintaimu ya ku tak tahu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Jalan yang kini terbentang membuat kakiku kini tak sabar untuk melangkah denganmu.
kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.
Yeah, I believe in you and me and us and we and love. And trust me, you don't need no other dudes. I'll be all you need, you are all I see. I'm your remedy, you're my energy. And if the world is falling, then I'll pick it up for you. I'm nothing without your love, and I'm not gonna let you go, love. And if you're starving then low, I'ma let you know that you got my shoulder to cry on when you need it. You can tell me all your secrets, I promise I will keep it. And I can't wait for the next time we.
Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de Magazine Culturel. Et cette fois, avec moi Audrey, je vais vous présenter Belle Plage de Widara Payung de Java Central. Chers auditeurs, pour ceux d'entre vous qui aiment le tourisme balnéaire, nous vous recommandons de vous rendre à Cilacap dans le centre de Java. Il existe une destination balnéaire appelée la plage de Indah Widara Payung. L'attrait de cette plage réside dans le magnifique panorama, le sable doux et propre de la plage, qui s'étend sur trois villages à la fois, à savoir Widara Payung Wetan, Widara Payung Kulon et Sidayu. Situé dans le district de Binangun, ou à environ 35 km à l'est de la ville de Cilacap, avec un temps de trajet d'environ 45 minutes. Pour profiter de la magnifique plage de Widara Payung, vous devez payer un billet d'entrée d'environ 10 000 de roupies par personne. Lorsque vous atteignez la plage, vous aurez une vue sur une plage de sable noir et propre. La plage d'Indah Widara Payung a tendance à être en pente et compte de nombreux cocotiers qui poussent sur le rivage, ce qui rend l'atmosphère fraîche, comme les plages en général. Vous pouvez vous baigner sur cette plage. Il faut cependant être prudent car les vagues sur la place de Widarapayung sont assez grosses. Ne nagez pas trop loin vers le milieu. Cependant, si vous avez trop peur de vous baigner sur la plage, vous pouvez également vous baigner dans la piscine qui est à votre disposition sur cette plage. Parce que les vagues sont grosses, le surf est une activité préférée des touristes. Sagittaire, outre le surf et la natation, vous pouvez également explorer la magnifique plage de Widarapayung à cheval ou en calèche sur la côte. Pour un coût de 40 000 à 50 000 de roupies, vous pouvez louer une calèche ou un cheval pour profiter de la beauté de la plage de Widarapayung. N'oubliez pas d'essayer des plats locaux tels que l'amba mandouan et les chips yutuk. Yutuk est une tortue de mer frite comme des chips. La place de Widarapayung est également dotée de diverses installations assez complètes, telles que des salles de bain, un parking, une salle de prière et une piscine et hébergement. Au Chajou et Tarsé, tout le magazine culturel.
tetap saja ku masih selalu merindu.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'Indonésie en couleur. Avec Maudry, je vais vous présenter The Shadow Strays sera projeté au Festival international du film de Toronto. Chaque jour, les films indonésiens remportent de plus en plus de succès des divers festivals internationaux prestigieux. The Shadow Strays du réalisateur Timo Cahyanto sera présenté en première au Festival international du film de Toronto, TIFF, 2024, pour le programme spécial Midnight Madness. Le film sera projeté du 13 au 15 septembre. Midnight Madness est l'un des programmes du Festival international du film de Toronto qui présente spécifiquement des films d'action, d'horreur et fantastique projetés à minuit. Chargé tard de Shadow Strays est l'un des 10 films projetés au Midnight Madness Toronto International Film Festival. Ce programme s'ouvrira avec la projection du film The Substance de la réalisatrice Coralie Fargia. Plusieurs films étaient projetés au programme comme Dead Male, Dead Talent Society, Escape from the 21st Century et The Gacy Dues. Le film de Shadow Strays lui-même est l'un des nombreux projets de films indonésiens diffusés sur le service de streaming Netflix tout au long de 2024. Chargé d'art de Shadow Strays est la dernière œuvre de Timo Cahyanto. Il est connu comme le réalisateur derrière les films Before Devil Picks Up vers 2 2020 et The Big Four 2022. Le film de Shadow Strays raconte l'histoire d'un tueur professionnel de 17 ans qui purge une peine au sein de l'organisation qui l'héberge. Cependant, un jour, il a vu un garçon perdre sa mère parce qu'il avait été assassiné par un syndicat du crime. Le jeune tueur s'est alors opposé à son mentor et à son organisation pour sauver son enfant. Cependant, cet effort n'est pas facile à réaliser car il implique de nombreuses parties. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Dengan mudahnya kau kalahkan, detik saat kau katakan ya, oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Oh, banyak kekalahan dalam hidupku, oh, dan kini ku menangkan hatimu. Oh yeah, pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu. Dunia mulai datang menyapa, dan apapun yang kan terjadi selalu bersama. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kau telah jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu. Oh, dari dulu. Kau sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau telah jadi milikku, dan ku berharapkan selalu.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz, et en streaming sur www.voinews, et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes: Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jatuh. biasa. Jalani setiap hari bersama. Lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada kamu di hidupku. Awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Lalu ku jatuh cinta.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Cette fois, dans le programme magazine musical avec moi, Audrey, je vais vous présenter une chanson de Gorontalo. Chers amis, le lien intérieur, l'amour et le désir d'un enfant pour sa mère ne manque jamais de présenter une nuance d'émotion dans une chanson. De même avec la chanson pop de Gorontalo, intitulée « Tahuli li Mama ». La chanson Tahuli li Mama contient une signification profonde sur l'amour d'un enfant et son désir arde pour sa mère. Le mot Tahuli lui-même, dans la langue Gorontalo, signifie un sentiment de nostalgie ou de véritable amour. Les paroles de la chanson Tahuli li Mama expriment le désir de la mère, des sentiments d'amour sincères et une appréciation pour l'amour et le sacrifice irremplaçable de la mère. Les paroles décrivent également un porté de la convivialité et de la chaleur de la famille Gorontalo. Pour changer d'heure, voici la chanson Tahuli li Mama de Gorontalo, chantée par Guiou Damanik. Bonne écoute. Thank you.
Wa umalo tilolamu tutua utololo di mama tidu toti liu ponu pila pila lango mama po hualingai wa
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!